Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de Studio ZEF. Vous êtes bien sur le 91.1 à Blois et le 91.7 à Vendôme et vous êtes dans la lorgnette. Il y a un mois, nous parlions dans la lorgnette des manifestations iraniennes qui laissaient place à la peur après qu'elles aient été réprimées dans le sang. Plus de deux semaines après le lancement des opérations américaines, subtilement appelées Fury Épique et israéliennes Lion Rugissant contre le régime d'Hezbollah, la guerre en Iran et plus largement à travers le Moyen-Orient se poursuit. Le conflit se régionalise et le spectre d'une guerre sans fin apparaît. Et pour en parler ce soir, on a le plaisir d'accueillir Elsa. Bonsoir Elsa.
Bonsoir.
Tu es un peu ici notre voix à Studio ZEF pour parler du Moyen-Orient, de la situation à Gaza pour laquelle on t'a de nombreuses fois reçu. Et on est très heureux toujours de te recevoir pour parler de ces sujets importants. Comme je le disais, on a fait une lorgnette il y a un mois de ça sur la situation iranienne. Ce soir, on va essayer de parler ensemble de la situation plus globale du conflit au Moyen-Orient. On a préparé ensemble un petit peu cette émission, on va essayer de tout parler de tout, il y a beaucoup de choses, c'est un sujet très complexe, donc on va tenter de le faire dans cette petite heure ensemble, mais merci de ta présence en tout cas.
Ravi d'être de nouveau sur Studio ZEF.
Pour commencer, alors le conflit en est à son 19e jour. La guerre a été déclenchée par les États-Unis et Israël contre le régime d'Hezbollah. Pourquoi ce lancement dans la guerre de Trump, qui nous avait habitués à un discours sur son non-interventionnisme jusque-là ?
Enfin, non-interventionnisme, ça pose problème déjà quand on voit ce qu'il a fait au Venezuela. En intervenant pour enlever d'une façon complètement cow-boyesque, je dirais, le président Maduro. Je pense que les paroles de Trump, il faut les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des paroles données un jour donné, mais qui n'engagent que les personnes qui l'écoutent, en fait. Bon, moi, je pense que Netanyahou a joué sûrement un très grand rôle dans la décision de Trump d'intervenir contre l'Iran. C'était déjà le cas au cours de l'intervention des 12 jours, la guerre des 12 jours en juin 2025. Et c'est vrai que c'est une obsession pour Netanyahou depuis des années, des dizaines d'années, que l'Iran constituerait, selon lui, une menace existentielle pour l'État d'Israël. Alors, l'argument, c'est que... Alors, c'est bien sûr la question de l'arme nucléaire... Et Trump, dans un premier temps, a dit qu'ils étaient prêts à une attaque imminente, et donc ce qui justifierait son intervention, alors qu'au regard du droit international, il n'y a pas de guerre préventive, en fait, ça n'existe pas au regard du droit international. Et il a très rapidement changé d'avis, alors, soi-disant pour apporter la démocratie au pauvre peuple iranien, qui est sous la coupe d'un régime, il faut le dire, terrible, dictatorial, etc. Mais ce n'est pas en bombardant un peuple qu'on le libère, à mon avis. Ensuite, c'était la question des missiles balistiques. Enfin, je veux dire, il a changé
de discours
au cours du temps. Mais je pense que ce qui est derrière ça, c'est l'envie d'avoir un État d'Israël absolument hégémonique sur toute la région. Je pense que c'est ça. Il faut savoir qu'Israël, sans le reconnaître jamais officiellement, est la seule puissance nucléaire de la région. Et ils veulent rester les seuls. Ça, c'est évident.
Il y a cette idée de Netanyahou de créer un nouveau Moyen-Orient.
Oui, alors ça, il avait déjà commencé depuis longtemps avec la Syrie, déjà. Avec le changement de régime, il va vers une balkanisation en fait de la Syrie, c'est-à-dire essayer de fractionner la Syrie pour que ce soit pas un état fort. Il en a profité d'ailleurs pour envahir le restant du Golan qu'il n'avait pas, alors qu'il avait déjà annexé d'une façon complètement illégale une partie du Golan à la suite de la guerre de 67. Il est allé soi-disant au secours des Druzes de la Syrie. Mais bon, on voit bien que ce n'était pas ça son objectif. En fait, je pense que ce qu'il souhaite, c'est une balkanisation de tous les États qui peuvent être un petit peu forts dans la région. C'est ce qui a été fait en Irak, Déjà, c'est un État qui, auparavant, avait une certaine puissance et qui, depuis la guerre de 2003, n'est plus ce qu'il était, encore maintenant, des années après. Et je pense que ce qui est visé pour l'Iran, c'est la même chose, mais ça va être un peu compliqué.
Tu as évoqué la guerre des 12 jours donc, qui a eu lieu en juin dernier. C'est le nom que Donald Trump donne à ce conflit. Comment ce conflit s'était terminé? Et voilà, comment cette durée si brève avait
pu... C'était assez drôle parce que, alors qu'on le savait très bien, aucun des objectifs n'avait été atteint. Il a dit que Trump s'en est sorti en disant que ça y est, la guerre était terminée parce que tous les objectifs avaient été atteints. Or, bon, c'était une fanfaronnade et de toute façon, si ça avait été si triomphant que ça, je ne vois pas pourquoi il devrait intervenir à nouveau le 28 février. Ça pose quand même question.
Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Iran en 79 avec la révolution islamique qui met fin au régime du Shah, régime qui était allié aux USA? Comment se sont poursuivies les relations entre le régime instauré par Khomeini et les États-Unis?
Au début, les relations n'étaient pas si mauvaises que ça. Et y compris avec Israël d'ailleurs, parce que justement au moment de la guerre contre l'Irak, au moment où il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak, l'Irak a été fourni en armes par Israël, il faut le savoir, d'une façon secrète, avec une espèce de billard à trois bandes avec les contrats au Nicaragua. Ça a été d'ailleurs un scandale énorme à l'époque, mais ça a été vite oublié. Et c'est évident qu'après, les choses se sont gâchées. Mais au départ, ce n'était pas du tout le cas. Ils pensaient que ça pouvait se faire, enfin, avec des relations, évidemment, pas chaleureuses, mais au moins...
Diplomatiques.
Voilà.
Oui. Et j'ai appris en préparant l'émission, alors je ne sais plus l'année exacte, je crois que c'est 79 également, cette histoire de prise d'otages de 50 ressortissants américains
à l'ambassade, la fameuse... effectivement, ça a été un coup dur. Ça a été réglé, si je me souviens bien, par Carter, il me semble. Mais c'est sûr que ça a été une gifle à l'amour propre américain qui se croit toujours les champions du monde.
Et à l'époque, Donald Trump avait une trentaine d'années et il y a une archive où on le voit parler de cet événement-là dans une interview où il est là pour parler d'économie, de son empire en train de se construire. Et il parle de cet événement-là, donc déjà à l'époque, on voit comment ça... Est-ce que ça l'impactait, semble-t-il?
Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Trump.
Oui. Donc en juin 2025, on en a parlé, c'est la guerre des 12 jours. Israël lance cette opération et Trump rejoint cette opération. Cette attaque du 28 février dernier, donc on en est au 19e jour de conflit. Tu as parlé des raisons de cette attaque prônée par les États-Unis, l'ombre nucléaire, les capacités balistiques.
Avec en plus un prétexte qui me semble d'une hypocrisie rare, c'est-à-dire aller contre un régime qui opprimerait son peuple parce que c'est un régime religieux théocratique. Ce qu'il est de fait, ce qu'il est de fait. Mais enfin, je veux dire, Trump discute avec des évangélistes qui sont ses plus proches conseillers. Netanyahou prend la Bible pour un cadastre et ça ne pose aucun problème. Et il suffit de regarder le nom qu'il donne à toutes les opérations militaires. Ce sont toujours des noms qui sont inspirés de la Bible. Je veux dire, ils ont de très très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, qui n'est pas un parangon des droits de l'homme, que je sache. La condition des femmes n'y est pas très bonne, même si elles ont enfin obtenu le droit de conduire et d'aller au cinéma. Enfin, je veux dire, c'est une hypocrisie rare.
Oui. On a parlé de Trump, tu as parlé aussi de Netanyahou. Est-ce que l'opinion publique israélienne, quelle est l'opinion du peuple israélien sur ce conflit?
Alors il se trouve que je lis assidûment des échos qui viennent directement de la société israélienne. La société israélienne entièrement, enfin quasi unanimement, est pour cette guerre. C'est une guerre qui a été voulue par Netanyahou, comme je le disais, parce que c'est une vieille obsession. Mais il ne faut pas oublier qu'il a des casseroles aussi. Il y a un procès qui le menace, il y a des élections qui approchent. Et il sait très bien que ça détourne de la Palestine, de Gaza et de la Cisjordanie, ce qui s'y passe actuellement.
Ça détourne le regard.
Ça détourne le regard, exactement. Et en période de guerre, il sait très bien qu'il va pouvoir plus réunir autour de lui que si c'était s'il n'y avait pas la guerre. Mmh. Donc en fait, on voit que Netanyahou, depuis le début, il est dans un processus de guerre permanente, permanente. Je veux dire, la Syrie, le Liban, c'est épouvantable ce qui se passe actuellement au Liban. Absolument épouvantable. Des frappes contre tout le monde, je veux dire, ils ont frappé, y compris le Qatar. Mmh. Y compris le Qatar. Alors qu'il n'y avait pas de raison, en fait.
On y reviendra plus tard sur le Liban et les monarchies du Moyen-Orient. Semble-t-il, le régime iranien ne tombe pas, résiste. Qu'est-ce qui fait qu'il résiste et...
Ben écoutez, il me semble que le nombre d'années de ce régime explique beaucoup de choses. Je dirais qu'il a eu le temps de se solidifier, de s'intensifier, d'avoir des assises, y compris populaires, même si effectivement il y a une très grande contestation de la part de la jeunesse et de certains secteurs ouvriers. Les syndicats ouvriers iraniens sont absolument opposés au régime des mollahs qui, eux, sont pour une économie libérale. Et ils s'en fichent en fait des droits des travailleurs. Mais c'est quadrillé par des milices armées, les Bassidj, les gardiens de la révolution. Et même si le régime est décapité petit à petit, comme c'est le cas actuellement, puisque jour après jour, on entend parler tombent les unes après les autres, il y a toujours la relève derrière. Et je pense que ça va être très, très difficile s'il n'y a pas de mouvement à l'intérieur. De changer le régime. De toute façon, je pense qu'il s'en fiche complètement. Je pense que Trump, ce n'est pas son problème. Il suffit de voir ce qui s'est passé au Venezuela. Maduro parti, c'est la vice-présidente qui a pris la présidence, soi-disant par intérim. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se plie aux volontés de Trump. C'est ce qu'il veut. S'il trouve des théocrates, des mollahs qui sont prêts à agir, à traiter avec lui, à ses conditions à lui, bien sûr, il n'y aura aucun problème. Il va laisser tomber le peuple iranien comme il l'a fait à d'autres occasions.
Quels sont encore les alliés du régime iranien?
Les alliés, alors il y a toujours ce que les médias occidentaux appellent des proxys, c'est-à-dire le Hezbollah, d'ailleurs qui a fait une erreur stratégique énorme en attaquant Israël pour défendre la situation des Iraniens. Il y a les Houthis au Yémen dont on n'entend plus tellement parler parce que tout le monde est concentré sur le détroit d'Hormuz et pas du tout sur Bab el-Mandeb. Mais voilà, ce sont ceux-là qui sont ses alliés et qui sont très affaiblis.
Oui, en effet. Oui,
très affaiblis.
Avant, il y avait la Syrie également.
Oui, mais alors là, la Syrie de Ahmad al-Sharaa, comme il veut devenir présentable... Comme par hasard, il est passé de statut de terroriste islamiste à chef d'État respecté et respectable.
Mojtaba Khamenei, le fils de Khamenei, a pris la tête du pouvoir. Il est, semble-t-il, plus extrême que son père. Qu'est-ce qu'on sait de cet homme?
Apparemment, très peu de choses. Mais ce qu'il faut quand même mettre dans l'équation, c'est le fait qu'il a perdu. Il a perdu son père, il a perdu sa mère. Il a perdu son frère, il a perdu sa belle-sœur, il a perdu sa nièce. Il a perdu beaucoup de monde dans les frappes états-uniennes et israéliennes. Donc je doute que ça puisse le rendre modéré.
En effet.
Ça m'étonnerait beaucoup.
Oui. On a parlé de l'Iran. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur la situation en Iran avant qu'on passe au Liban?
Je pense qu'on a fait un petit peu
le tour.
Oui. Sinon, quand même, je veux dire que c'est terrible. Ils paient un tribut extrêmement lourd, les Iraniens, en ce moment. Le peuple iranien qui a été d'un courage incroyable en se soulevant contre le régime paye le prix lourd. Il y a énormément... Là, on sait que la répression est beaucoup, beaucoup plus féroce actuellement qu'avant, avec l'argumentation que si on se soulève contre le régime, c'est qu'on est manipulé par l'extérieur, par Israël et les États-Unis. Donc pour le peuple iranien, c'est vraiment absolument terrible ce qui se passe actuellement.
On va partir au Liban où les bombardements israéliens ont lieu. Il y a eu des frappes à Beyrouth et dans le sud du pays encore hier. Pourquoi ces zones-là particulièrement ?
Alors je voudrais dire en préalable qu'il y avait normalement un cessez-le-feu entre Israël et le Liban depuis novembre 2024. Mmh. Et il faut savoir qu'au moment du déclenchement de la guerre, la dernière guerre, le 28 février, il y a eu plus de 15 000 violations du cessez-le-feu par Israël. C'est-à-dire que le territoire libanais n'a jamais cessé d'être survolé par l'aviation israélienne, n'a jamais cessé d'être bombardé, on n'a jamais cessé de déplacer des populations. Donc, c'est une accentuation simplement de ce qui s'est passé. Alors, Israël, en fait, n'a jamais, jamais encaissé le fait d'avoir été chassé par le Hezbollah du sud Liban. Ça, il faut savoir qu'Israël a occupé le sud Liban de 78 à l'an 2000. Et en l'an 2000, c'est l'action du Hezbollah. Et d'ailleurs, c'est cette occupation du sud Liban qui a provoqué la création du Hezbollah. Mmh. Parce que l'État libanais étant relativement faible avec un régime communautaire un petit peu particulier, l'armée libanaise n'était pas en capacité de lutter contre les forces israéliennes. En 1982, Israël est arrivé jusqu'aux portes de Beyrouth, a occupé Beyrouth, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les massacres de Sabra et Shatila. Et donc le Hezbollah, en fait, a réussi à résister et à repousser les forces israéliennes. Mmh. Alors, c'est toujours la même question. Pourquoi il s'attaque au sud du Liban, le fameux fleuve Litani qui y aurait entre la frontière israélienne israélo-libanaise et le fleuve Litani qui est aux 5 km au nord? Ils veulent en faire une zone tampon. Mmh. Et ce qui se passe, et ce qui est assumé, c'est qu'ils appliquent exactement les mêmes méthodes qu'à Gaza, que sur la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'ils rasent absolument tout. Les villages sont complètement aplatis. Il n'y a plus rien du tout pour éviter justement que les personnes, que les villageois reviennent sur leurs terres.
S'installer. Mmh. Oui. Donc les bombardements ont vraiment lieu là où le Hezbollah est...
Oui,
et
enfin,
le plus prégnant.
Je ne pense pas que bombarder la corniche de Beyrouth soit... je ne pense pas que la corniche de Beyrouth était une zone particulièrement habitée par les chiites. Mmh. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'était occupé par les déplacés du sud Liban. Il faut savoir que le Liban, c'est 5 millions d'habitants, 5 à 6 millions d'habitants, 700 000 déplacés, du jour au lendemain. Y compris la banlieue de Beyrouth, Tahia.
Oui, c'est ce que moi j'ai appris et qui est devenu plus clair en préparant cette émission. C'est, tu parles des chiites, c'est les alliés de l'Iran sont
oui.
aussi, voilà, toutes ces...
Bah parce que l'Iran est majoritairement chiite, en dehors des Kurdes qui sont sunnites, certains arabes, mais sinon il est majoritairement chiite. Et donc... par proximité religieuse, je dirais. Mais bon, je pense que là, la situation est un petit peu différente parce que le Hezbollah, en réagissant en soutien à l'Iran, a provoqué une riposte terrible et que donc on voit déjà apparaître des petites fractures entre les deux parties chiites, majoritairement le Hezbollah, mais il y a un autre parti chiite qui s'appelle Amal et qui n'est pas tout à fait sur la même position en pensant qu'ils ont fait une erreur.
Et ce parti-là, c'est un parti sur la scène politique.
Politique, bien sûr, oui,
d'accord.
Représenté au gouvernement, bien sûr, bien
d'accord.
sûr. Oui, oui.
Qu'est-ce qu'on sait des victimes ? Est-ce que tu as des chiffres sur la situation au Liban depuis le début
alors,
de la guerre ?
Il me semble que c'est plus de 1000, c'est ça, depuis le 28 février.
Oui, moi j'avais retenu,
plus de 1000.
Sur les déplacements qu'un Libanais sur 6 a fui les combats.
C'est ça, oui.
Depuis
près.
Le début de la guerre. Et je lisais aujourd'hui, selon l'UNICEF, l'équivalent d'une classe d'élèves est tuée ou blessée par jour depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hezbollah.
Oui.
Et puis, d'après le ministère libanais de la Santé, au moins 100 enfants ont été tués et 334 autres blessés dans les frappes israéliennes depuis le 2 mars. Est-ce qu'il y a un gagnant, finalement, dans cette guerre ?
C'est un petit peu trop tôt pour le dire. Mais de toute façon, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des grands perdants et ce sont les peuples de la région. Si on ne peut pas déterminer un gagnant, on peut tout à fait voir qu'il y a déjà énormément de perdants dans la région, avec un risque d'extension du conflit à toute la région. Je pense qu'il ne faut pas négliger cette possibilité-là, qui est affreuse, terrible, mais elle risque d'arriver parce que de toute façon, on voit bien que, vu les difficultés que les États-Unis ont eues en Irak, en Afghanistan, en Libye, ils ne se rendent pas compte... Je veux dire, ça paraît incroyable de penser qu'ils vont régler la question par la force. Il y a deux solutions, c'est soit la diplomatie, soit la force. Apparemment, Trump a choisi la force en attaquant le fameux champ gazier au large de l'Iran et qui est un champ gazier commun d'ailleurs avec le Qatar. Donc là, il y a un gros risque parce que c'est la plus grosse réserve mondiale de gaz naturel et c'est 70% des revenus de l'État iranien. Donc là, c'est une question existentielle qui se pose.
Et quel est le positionnement des monarchies du Golfe ? Alors, je le rappelle, les monarchies du Golfe, donc on a l'Arabie Saoudite, Oman, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Qatar dont tu parlais.
Le Bahreïn.
Et Bahreïn, oui.
Alors, les positions, c'est que... avec son projet d'accord d'Abraham, les États-Unis pensaient pouvoir pacifier la région en établissant un accord entre ces monarchies, sauf l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'est pas rentrée dans les accords d'Abraham, avec Israël, avec comme contrepartie, enfin, ils reconnaissaient l'État d'Israël, en contrepartie, Israël, soi-disant, était neutre, etc. Enfin, ils pouvaient commercer, parce que c'était ça la question, c'était pouvoir commercer dans la région, voilà, sans problème. Bon, l'Arabie Saoudite n'est pas rentrée là-dedans, parce que, étant gardienne des lieux saints de la Mecque, elle savait très bien que ça allait contre l'avis de sa population, et qu'elle ne pouvait pas aller contre, et que ça risquait d'affaiblir sa position dominante, puisque gardienne des lieux saints, donc elle n'était pas rentrée dans ces accords-là.
Ils datent de quelle période, les accords d'Abraham ?
Les accords d'Abraham, je ne sais plus, mais ça doit être 2000, je ne sais plus.
En tout cas...
Le premier mandat Trump.
D'accord.
Si je me souviens bien. Bon. Mais la contrepartie, c'était qu'il y avait un accord de longue date, même qui date au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que les États-Unis protégeaient ces monarchies. Toutes les monarchies, c'était leur parapluie. Il y avait des accords militaires, il y avait des experts militaires des monarchies qui allaient aux États-Unis se former. Enfin, il y avait... Or là, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas protégés. Et ça, à mon avis, là, c'est les accords d'Abraham sont bien fichus, il me semble.
Je te propose de faire une petite pause musicale. On écoute un morceau, le morceau Nomade du groupe Bédouin Burger. Bédouin Burger, c'est un duo formé par Ziad Hamdan et Lynn Adib. Ziad Hamdan, c'est un producteur de musique libanais qui vit en Occident maintenant et qui a formé ce duo avec Lynn Adib, une chanteuse syrienne à la fin des années 2010. Un projet dans lequel les deux artistes juxtaposent la musique traditionnelle bédouine et les influences pop et électroniques. On écoute le morceau « Nomade ».
ورد فاح
Nous sommes toujours dans la lorgnette avec Elsa Petit-Hassan pour parler du conflit au Moyen-Orient. On parlait avant de faire cette petite pause, dont on vient d'écouter d'ailleurs Bedouin Burger, qu'on vous invite à découvrir les autres morceaux de ce duo. On a parlé de la situation au Liban. J'aimerais maintenant t'interroger sur le détroit d'Ormuz, dont on entend beaucoup parler, et des conséquences aussi économiques et mondiales de ce conflit, puisqu'on le voit aussi à nos pompes ici à Blois et partout en France. Quelles sont-elles ces conséquences de la fermeture du détroit ?
Énorme, parce que c'est le seul, pratiquement le seul débouché pour le pétrole brut et du gaz liquéfié qui vient aussi bien de l'Iran que du Qatar, que du Koweït, etc. Tous ceux qui sont autour de ce golfe-là. Donc c'est absolument dramatique et il faut savoir que les conséquences ne concernent pas simplement le pétrole mais aussi les engrais et ça risque d'avoir aussi des conséquences énormes en ce qui concerne l'alimentation mondiale parce qu'il y a énormément d'agriculture dans le monde qui compte sur les engrais qui viennent de cette région du monde.
Je lisais des articles notamment sur le positionnement de la Chine qui peut-être ne pourra pas rester neutre très longtemps. Au vu des conséquences.
Oui, enfin bon, la Chine est extrêmement prudente et elle a raison de l'être. Donc, ils trouveront peut-être une autre solution, j'en sais rien. Enfin, il ne faut pas espérer que la Chine rentre dans le conflit, sinon ce serait extrêmement grave. Mais enfin, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, il faut savoir qu'il est extrêmement petit, c'est 20 km de large. Et il faut savoir que le grand risque, c'est que l'Iran, étant donné les attaques qu'ils subissent, pensent à miner le détroit. Il paraît qu'il y aurait déjà quelques mines installées selon les renseignements états-uniens. Et il paraît que l'Iran a une très très grande réserve de mines qui pourraient les déposer dans ce détroit et empêcher complètement l'entrée d'un bateau. Il faut savoir que le flux, normalement par jour, c'était de 128 navires qui passaient par le détroit par jour. Et actuellement, ils en sont à 2 ou 3. Donc, on voit bien la différence. Et bon, effectivement, les conséquences, on va les avoir ici. Prix du gaz, plus 105%. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui.
Oui.
Bon, ben voilà.
Sur cette place du pétrole dans ce conflit, voilà, est-ce qu'il y a des intérêts aussi enfin, voilà, on sait bien que dans ces conflits au Moyen-Orient, la place du pétrole est prépondérante. Mais là, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ou...
Moi, je pense que l'intérêt, bien sûr, est économique avant tout autour du pétrole. Ça a toujours été le cas. C'est la malédiction de la région depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou même avant, depuis la découverte de ces richesses. Déjà, le premier coup d'État en 58 en Iran contre un premier ministre élu démocratiquement, 58, c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis. Déjà, je veux dire, voilà, ça commence extrêmement tôt. Mais il y a un intérêt géopolitique supplémentaire extrêmement important, c'est-à-dire l'hégémonie d'Israël sur toute la région. Et je pense qu'il y a, pour certains États-Uniens, mais pour tous les Israéliens, l'idée quand même du grand Israël qui reste toujours là. Je veux dire, certains ont même dit que le grand Israël, c'était du Nil à l'Euphrate. On voit, c'est incroyable quoi, de dire des choses pareilles.
Qu'est-ce qu'on sait des relations entre Trump et Netanyahou ?
Très bonnes jusqu'à présent, mais apparemment certains intimes de Trump commencent à lui reprocher le fait d'être trop sous la coupe de Netanyahou, de s'être laissé entraîner alors que l'état-major militaire était contre l'intervention en Iran. Donc, je ne sais pas si ça va résister ou pas, à voir.
Oui, autant Netanyahou a l'opinion israélienne lui, autant Trump,
c'est pas le cas.
Plus risqué pour lui.
Bien sûr, surtout qu'il y a les élections midterm qui arrivent, il y a une affaire Epstein dans le coup, il y a la Cour suprême qui ne réagit pas tout à fait comme il le souhaiterait, donc il a quand même aussi pas mal de soucis de son côté.
Tu parlais du droit international au début de cette émission. Voilà, est-ce que les grandes instances internationales, quel est leur discours pour le moment sur le conflit ?
Le discours, il a été dit. Il a été dit que c'était illégitime, illégal, etc. Enfin, depuis quelque temps, on voit que le droit international n'arrête pas d'être foulé aux pieds par... c'est le poids de mesure, je veux dire... À juste titre, la Russie a subi des sanctions extrêmement sévères de la part des pays au moment de l'invasion de l'Ukraine. Rien contre Israël, rien contre les États-Unis qui interviennent contre le Venezuela, rien contre Trump qui annonce qu'il veut annexer le Canada et s'emparer du Groenland. Enfin, bon, je veux dire, le droit international est extrêmement affaibli en ce moment. C'est pas une raison pour le négliger, ça doit être une boussole, mais il faut quand même savoir qu'il est incroyablement affaibli et qu'il n'a pas beaucoup de conséquences, en fait.
Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait permettre de remettre au cœur ce droit international ?
Oh là ! Je pense que ça, c'est la question à laquelle je ne peux pas répondre. La seule chose dont je suis sûre, en tous les cas, c'est que sans les peuples eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose ne peut se faire. Y compris, je veux dire, même si actuellement la société israélienne est pratiquement entièrement alignée sur les positions de son chef de gouvernement, il y a quand même des refusniks, ça existe. J'en ai vu, j'en ai entendu, qui sont venus à Orléans il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui s'opposent, des objecteurs de conscience, des refusniks, des gens qui manifestent pour les droits égaux avec les Palestiniens. Bon, il faut garder espoir dans ces quelques petites graines.
Poches de résistance.
Voilà, bien sûr.
Quel est le positionnement de la France pour le moment ? Alors, c'est vrai que de jour en jour, voilà, avec les nouvelles, on sent que les discours évoluent, les discours des Américains, enfin... de tous les belligérants, mais aussi d'Emmanuel Macron, qui sur, par exemple, la question du détroit d'Hormuz était plutôt contre une intervention en faveur des États-Unis, un maintien de la possibilité d'ouverture du détroit, et qui, aujourd'hui, je lisais, était plus nuancé et qui, avec quelques pays, voulait peut-être intervenir.
Trump a appelé à l'aide les États occidentaux en leur disant que, étant donné ce que les États-Unis avaient fait pour eux, il fallait bien qu'eux-mêmes le défendent, alors que c'est lui qui a semé quand même le désordre. Aucun pays occidental n'a demandé à Trump d'attaquer l'Iran, que je sache. Bon, donc l'intervention, la position de la France est quand même particulièrement curieuse, parce que il commence par dire, enfin, les déclarations de Macron, c'est que l'Iran l'avait bien cherché, d'une certaine façon, si je résume d'une façon grossière sa première déclaration au moment de la déclaration de la guerre. L'Iran l'a bien cherché, c'est quand même les États-Unis qui ont attaqué. Et j'écoutais encore les informations sur France Culture ce midi, c'était pareil. Il demandait à l'Iran de ne pas accentuer le désordre. Mais bon, je veux dire, qui est l'agresseur, qui est l'agressé? Il faut quand même revenir aux fondamentaux. La position de Barrot aussi est absolument honteuse. Je veux dire, c'est vraiment le deux poids, deux mesures. Si la Russie avait fait le quart de ce que les États-Unis font actuellement dans cette région du Moyen-Orient, je veux dire, on aurait une autre réaction que ça. Mm. Non, c'est absolument scandaleux.
Et est-ce que dans cette... on parlait des accords internationaux et de l'importance de la diplomatie et de ces instances internationales, est-ce que tu penses que Macron veut incarner une autre voie, plus celle de la diplomatie ou...
Je ne pense absolument pas. Je pense qu'en fait, pendant très longtemps, la France a eu une position extrêmement équilibrée, diplomatique, en ce qui concerne la région. C'était la position de Gaulle en particulier, qui a été poursuivie. En fait, là où ça a basculé complètement, c'est au moment de la présidence Sarkozy. Mmh. C'est là où les choses ont complètement basculé, avec un alignement pro-États-Unis aveugle et pro-israélien aveugle. D'ailleurs, je veux dire, la preuve, c'est cette proposition de loi Yadan qui va être présentée devant le Parlement début avril. Yadan, il faut savoir que c'est Caroline Yadan, c'est une députée pour la circonscription des Français établis à l'étranger, une circonscription qui comprend l'État d'Israël, et elle défend les positions mordicus, toutes les positions de l'État israélien, y compris ses positions les plus génocidaires. Et cette proposition de loi a soi-disant pour objectif de lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, mais en fait, quand on lit attentivement la loi, on se rend compte qu'il n'y a rien du tout dans le texte sur les discriminations qui peuvent affecter les populations juives, mais qu'il s'agit d'interdire toute critique de l'État d'Israël. Mmh. Et en définissant l'antisionisme comme une forme renouvelée de l'antisémitisme. Contrairement à ce qu'a décidé la CNDCH, qui a dit que, en fait, l'antisionisme n'était pas la matrice, si vous voulez, d'un nouvel antisémitisme.
Et ce qui peut mettre à mal ton travail au sein Absolument. De la FPS, par exemple.
Absolument. Il s'agit, c'est vraiment une atteinte incroyable à la liberté d'expression. L'antisionisme, c'est une position politique. On peut être pro-sioniste ou anti-sioniste. Antisémitisme, jamais. C'est du racisme, c'est un délit. C'est sanctionné par la loi. Il y a déjà une loi contre l'antisémitisme. C'est pas la peine d'en rajouter. Et ça risque d'affecter les recherches universitaires sur la question. Il suffit de voir l'annulation du colloque au Collège de France sur la Palestine et l'Europe. Il y a déjà eu donc des interdictions. Criminalisation du monde solidarité. Par exemple, la FPS qui existe depuis... assez longtemps maintenant, plus d'une vingtaine d'années, ne pourrait plus continuer à s'exprimer, à et exister à même. Mmh. Donc on est vraiment dans une position très 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 délicate.
Et cette proposition de loi, elle est toujours en discussion?
Alors,
j'ai vu qu'elle était décalée.
Elle a été décalée parce qu'elle est arrivée en fin d'ordre du jour d'une session parlementaire. Donc elle est repoussée, elle va passer en procédure accélérée. Début avril. D'accord. Alors il faut savoir que le député Christophe Marion de la 3e circonscription de Loir-et-Cher fait partie des 150 députés qui ont proposé la loi. Mmh. Et en tant qu'AFPS, nous lui avons demandé un rendez-vous que nous avons obtenu, mais évidemment il ne nous a rien promis.
Mmh. Avec l'AFPS, quelles sont vos prochaines mobilisations à venir?
Alors donc, nous ce que nous avons prévu c'est après-demain, samedi 21 mars à 16h à la Bourse du Travail, un film projection débat autour d'un intervenant de Stop Arming Israel, parce qu'il faut savoir que dans le département, nous avons deux sites d'armement qui commercent, on le sait, avec l'État d'Israël. C'est MBDA à Seine-Saint-Denis et dont le doublement est prévu d'ici 2030. Et le site de Thalès à Vendôme, sur lequel nous sommes aussi intervenus en direction des salariés pour qu'ils sachent exactement ce qu'il fait. Alors, peut-être que sur place, il n'y a pas de production directement dédouée à Israël, mais le groupe lui-même, MBDA et Thalès, commerce avec Israël, ça on le sait.
Mmh, oui. Au niveau de la militarisation de la France, on sait que le gouvernement français souhaite développer tout son arsenal. Est-ce que ça a des répercussions déjà concrètes sur l'industrie de l'armement ?
Ah oui, les exportations ont explosé. La France, si je me souviens bien, est deuxième exportatrice mondiale d'armes dans le monde. Et donc une grande partie, bien sûr, va vers Israël. Même si c'est nié et qu'on dit, je crois que le discours officiel dit que ce que nous exportons vers Israël, c'est un objet défensif. Alors je ne sais pas comment on calcule ce qui est défensif, ce qui est offensif, enfin c'est un peu compliqué. Et je suis extrêmement inquiète parce que j'ai vu en ce qui concerne le site de Brandt à Vendôme, j'ai entendu dire qu'il était question d'y fabriquer des drones. Les drones, c'est, comme tout le monde le sait, c'est la nouvelle arme
qui se développe
énormément. Je veux dire qu'il y a eu un rôle terrible en Palestine, comme en Cisjordanie, comme au Liban d'ailleurs. Donc ça rend extrêmement inquiet.
Pour terminer, je te propose qu'on évoque une recommandation. On en a choisi une chacune pour parler de ce sujet-là, mais de façon différente. Peut-être je te laisse commencer. Tu as choisi un ouvrage d'un auteur que tu aimes beaucoup.
Voilà, il s'agit de Ziad Majed, qui est franco-libanais, professeur à l'Université américaine de Paris, et qui a écrit un livre absolument lumineux, que je trouve extrêmement pédagogique, qui s'appelle « Le Proche-Orient, miroir du monde, comprendre le basculement en cours ». C'est aux éditions de La Découverte. Alors ça s'articule autour de moments clés de l'histoire du Moyen-Orient. C'est très bien écrit, c'est très clair, c'est écrit gros, c'est facile à lire, donc je vous le recommande vraiment très chaudement.
Est-ce que tu nous lirais par exemple le début de l'ouvrage pour nous donner une idée ?
Alors, je n'avais pas prévu. Pour saisir la genèse des frontières politiques ayant façonné les entités indépendantes du Proche-Orient, il faut remonter à la Première Guerre mondiale avec la succession d'alliances, de promesses et de calculs stratégiques européens qui l'a accompagnée et à l'effondrement de l'Empire ottoman. Après près de deux siècles de déclin sur les plans économiques et militaires, face à des puissances européennes lancées dans la conquête coloniale et les réformes institutionnelles, et plus d'un siècle de domination britannique et française sur les routes maritimes de la Méditerranée, prolongée par l'occupation progressive du Maghreb, l'Empire ottoman, accablé par une dette extérieure croissante et l'échec de ses tentatives de modernisation, tant politique, administrative et militaire, se retrouva au seuil de sa chute à l'issue de la Grande Guerre. À cette époque, le pouvoir à Istanbul, désormais contrôlé par les jeunes Turcs, fit le choix de s'allier à l'Allemagne pour s'engager dans un conflit mondial, même si essentiellement européen, aux côtés de puissances opposées à la Grande-Bretagne, la France et la Russie tsariste, sa rivale aux frontières orientales.
C'est un ouvrage qui est paru récemment, tu me disais.
Octobre 2025, aux éditions de La Découverte. Et ça coûte pas cher pour ce que c'est, 18,50 €.
D'accord. Moi, j'ai fait un petit pas de côté. Voilà, je crois que j'avais envie de quelque chose d'un peu léger comme recommandation. Je vous propose un extrait du documentaire sonore de Marine Vlaovic qui s'intitule « Le souffle de Beyrouth ». Voilà, j'avais envie de parler du Liban aussi. Elle part à la rencontre de Rana Haid, qui est sound designer et réalisatrice. Et depuis près de 40 ans, elle enregistre les ambiances de Beyrouth, sa ville natale. Elle enregistre donc les sons de la guerre civile de 75 à 90, la reconstruction, la guerre de 2006, la révolution civile de 2019, l'explosion du port en 2020 et enfin l'effondrement actuel du pays. Elle commente ses propres archives sonores qui racontent son pays meurtri et une ville qui retient son souffle. Je vous propose d'écouter le début de ce documentaire.
Le son, c'est vraiment ma vie, c'est mon cœur qui bat. Je ne peux pas vivre sans son, je ne peux pas fonctionner, tu vois. C'est comme une machine qui ne fonctionne plus. Les fréquences et le son du cœur qui bat, c'est pour moi la même chose. Je m'appelle Anaïd, je fais du sound design. Je fais surtout des films et des documentaires, pas de pub. Je vis à Beyrouth. Et donc voilà, je suis née en 76, pile poil. La guerre a commencé en 75 et maintenant j'ai un fils de 11 ans qui revit à peu près, moins violemment bien sûr, ce que j'ai vécu quand j'étais petite.
Comment commencer ? Par où commencer ?
Quand j'avais 6 ans, il y avait la petite radio cassette, mes parents l'utilisaient pour écouter les news et tout ça. Je pense que ça a commencé comme ça, j'enregistrais des chansons juste pour les réécouter. Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de Kim Wilde, la chanteuse américaine, la blonde, il y avait beaucoup de musique rock à l'époque. Donc j'enregistrais des chansons et après j'ai découvert, ah, je peux enregistrer ma voix et je l'ai réécoutée. Donc j'enregistrais nos voix, les sons de la ville, les tirs des fois.
Attends, je vais commencer par le son qui me reste de la guerre. Non mais ça c'est récent. Ça c'est récent, c'était 2008.
J'enregistrais le son des voisins, mais surtout principalement les voix dans les abris, parce que j'ai passé pas mal de temps dans les abris, sous le sol.
Voilà pour cet extrait de ce documentaire sonore qui s'intitule Le souffle de Beyrouth, à découvrir librement et gratuitement sur le site de podcast d'Arte Radio. Oui. Voilà pour ce documentaire. Pour terminer cette émission, Elsa, tu m'en parlais juste avant qu'on prenne l'antenne, un peu voilà, des émotions et de cette apathie un peu dans laquelle ces nouvelles perpétuelles nous laissent.
Alors pas apathie, mais je dirais sidération, et il faut vraiment lutter contre, parce que ça fait 2 ans et demi de génocide à Gaza, en Palestine, en Cisjordanie, dans lequel on assiste à une épuration ethnique, un nettoyage ethnique vraiment horrible. Dimanche, il y a encore toute une famille qui a été tuée dans ses voitures, alors qu'ils revenaient d'acheter des habits pour la fête, parce que la fête c'est demain ou après-demain, je ne sais pas exactement.
Je ne sais pas exactement non plus, oui, je sais que c'est jour-ci. Mais...
Ben, la décision doit être prise normalement. Donc voilà, il faut continuer à lutter, les Palestiniens ont besoin de nous, les Libanais ont besoin de nous, les Iraniens ont besoin de nous, tous les peuples de la région ont besoin de notre solidarité active, et donc on va l'exprimer samedi prochain pour une manifestation régionale. Dans toute la France, il y aura des manifestations régionales en soutien au peuple de la région, en particulier à la Palestine. Et c'est à l'occasion de la commémoration de la Journée de la Terre qui a eu lieu le 30 mars. Mmh. Voilà.
Et selon toi, quelles sont, alors question un peu bête et très journalistique, mais quels sont les scénarios probables, potentiels de ces mois à venir sur cette nouvelle guerre ?
Je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste, je vois mal Trump se résoudre à abandonner, à moins que ce soit vraiment trop coûteux pour lui, électoralement parlant. Mm-hmm. C'est la seule possibilité, mais Israël va continuer.
Et certainement donc un enlisement
Bien sûr, encore pire qu'un enlisement.
Merci Elsa d'être venue à Studio Zef nous parler de ce sujet. On le rappelle, on a fait plusieurs émissions ensemble qui sont à retrouver sur le site de Studio Zef à la page de la lorgnette. Merci à toi et puis bonne soirée à toutes et à tous. Et à bientôt sur Studio Zef. Juste après, à 18h, c'est la Rock Set List. Mais d'ici là, on vous laisse avec quelques morceaux de musique avant de retrouver la bande de Christophe à 18h. À bientôt. Merci Elsa.
Au revoir. Merci.